WinLab, Innovation Live, épisode 5. Le réemploi, mode d'emploi. Présenté par le 3CABTP.
Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live. Merci d'être avec nous pour ce cinquième volet. Et oui, déjà vous le savez, le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour vous apporter un éclairage sur les enjeux et nouveaux usages de la construction.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc oui, le WIL est une série imaginée par le 3CABTP et son incubateur WinLab pour décrypter les tendances à venir et adapter les nouveaux usages, les compétences aux nouveaux usages. Pardon.
Bonjour, je ne vous avais pas salué. Bonjour à tous. On est heureux de se retrouver après formidable été. Vous le savez, hein, désormais, ceux qui nous suivent depuis le début, vous pouvez interagir avec nous tout au long de ce WIL, de ce WinLab Innovation Live. Je vous le rappelle. Alors tout à l'heure, n'hésitez pas dans la séquence Open Question, c'est vous qui poserez les questions à nos intervenants, car les WinLab se découpent en cinq temps forts. La présentation qui arrive d'ici peu, qui sera intitulée le Pitch Time, vous le savez, puis le moment d'échange fort, le débat, il y a débat, suivront les questions qui fâchent en troisième partie, puis la quatrième séquence Open Question, dans laquelle, je viens de vous le dire, on posera vos questions, et enfin le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab.
Alors aujourd'hui, donc, dans cette série des wheels destinés à l'économie circulaire, nous allons aborder le réemploi. Et notre objectif aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est de vous convaincre que le réemploi est une partie intégrante de l'économie circulaire et pas une option.
Oui Franck, et au cours de l'heure qui arrive, on va également se poser beaucoup de questions différentes.
Oui, tout au moins quatre. Quatre questions. Donc la première, c'est en quoi consiste le réemploi des produits et des matériaux. La deuxième, c'est où en sommes-nous actuellement? Est-ce que nous avons réellement avancé ou pas? Et comment accélérer le développement de l'économie circulaire et du réemploi?
Eh bien, le WinLab, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec notre première partie, le Pitch Time. C'est simple, le Pitch Time, c'est le moment où l'on pitch le thème du jour, où on l'explicite. Franck, le réemploi des produits et matériaux, en deux mots, en quoi cela consiste?
Alors, le réemploi, c'est simple. C'est je réutilise à l'identique avec les mêmes usages. Donc, on fait du réemploi déjà depuis quelques décennies avec les vêtements, donc les friperies, par exemple. Du réemploi lorsque l'on vend son meuble sur le Bon Coin sans faire de publicité. Et puis, le réemploi, c'est j'allonge la durée de vie de mon matériel, de mon produit.
Ah donc, ça veut dire que dans le BTP aussi, on peut réemployer.
Exactement. On peut réemployer à l'identique. Et donc, le réemploi est à la croisée des chemins entre la fin de vie d'un cycle, d'un projet, et puis la réhabilitation, le renouveau d'un autre cycle de vie sur un autre projet. Donc, c'est un croisement.
Un lien entre l'avant et l'après. Réemploi, réutilisation, recyclage. Quelle est la différence pour tous ces termes?
Alors, le réemploi, c'est usage identique à celui de départ. La réutilisation, c'est un usage détourné, donc là, une porte, si on prend notre sujet de la porte d'aujourd'hui, donc la porte est utilisée comme une porte dans le réemploi. Une réutilisation, c'est une porte devient une table, par exemple. Ensuite, il y a le recyclage, donc la porte devient du copeau reproduite sous forme d'un plateau ou d'un meuble ou autre. Donc en fait, le réemploi, la différence entre le réemploi, réutilisation et puis recyclage, c'est que le produit n'a pas de statut de déchet.
Le réemploi, c'est aussi simple que ça. Alors, ça veut dire prendre une porte et en refaire une porte.
C'est ça, tout à fait. Alors, ça, c'est dans le monde idéal. Il y a bien évidemment des freins. Donc, il y a des leviers et des freins. Les leviers, on les évoquera tout à l'heure. Le premier frein, c'est organisationnel. C'est le fait de qui fait quoi. Où est le lien de confiance d'un acteur à l'autre? Ensuite, il y a la logistique. C'est ça va où? La traçabilité, c'est un élément important aujourd'hui. Et il y a un autre point, c'est la technique. Donc, concernant les propriétés, comment garantir ces propriétés dans le cadre du réemploi? Et puis, le troisième, c'est le plus fort, je dirais, c'est le culturel. C'est pourquoi moi, j'utiliserais un produit réemployé alors que je peux avoir du produit neuf.
Donc, ce qui est le plus important à retenir dans ce que vous nous dites, c'est que le réemploi n'est pas une finalité, c'est un processus, c'est un projet. Alors, le pitch time, c'est aussi le moment où l'on demande à nos invités de se présenter en quelques secondes. On dit 30 secondes, mais c'est pas vrai, c'est un peu plus long. Et je me tourne vers Elisa Yavchitz. Bonjour. Et je vous laisse vous présenter, nous dire quelle est votre fonction et quelle est votre activité pour nos auditeurs.
Alors bonjour, je suis la directrice générale d'une association qui s'appelle Les Canaux, qui est basée à Paris mais qui intervient sur toute la France et dont la mission est de soutenir les acteurs économiques qui s'engagent pour la planète et la solidarité. Donc c'est vraiment comment l'activité économique, les entreprises, les employés peuvent à leur niveau agir aussi face aux enjeux de la société et donc évidemment face à l'enjeu du climat et évidemment la question du réemploi, la question de l'économie circulaire est au cœur de nos métiers et donc on accompagne les entreprises à intégrer l'économie circulaire dans leur métier et notamment les entreprises aussi du BTP.
Vous nous expliquerez comment dans la partie il y a débat qui arrive juste après. Merci beaucoup Elisa. Cédric Borel, vous nous accompagnez également aujourd'hui à votre tour de vous pitcher.
Bonjour, Cédric Borel. Donc, je suis le directeur de A4MT, entreprise Action pour la transformation des marchés. Et ce qu'on aime faire, c'est prendre un très grand nombre d'acteurs et leur faire faire une nouvelle pratique hein, qui va aider notre sujet de transition environnementale très concrètement, très opérationnellement sur le terrain. Et là, il s'agit de réemploi via une opération qui s'appelle le booster du réemploi, qui est une opération de coordination de la maîtrise d'ouvrage. On peut rééquilibrer, en fait... Le déficit entre l'offre et la demande de réemploi, hein, une forte offre hein, qui monte, et puis une demande qui est toujours un peu, qui est à construire, voilà.
Un petit peu stagnante et qui n'a pas encore.
Qui se développe hein, ouais. Et qu'on va accélérer, on va la booster.
On est là pour accompagner dans les faits, et ça, c'est une phrase qui va plaire à Stéphane Le Guiriec, qui est DG d'Agir et que l'on connaît, puisque vous nous accompagnez et vous nous éclairez sur ces WinLab depuis le début. Et je vous laisse à nouveau vous présenter et nous dire qui est Agir, que fait Agir.
Merci Franck, bonjour à tous. Effectivement, j'essaye autant que possible d'éclairer sur ce sujet important qu'est l'économie circulaire. Agir, c'est un hub d'accélération pour le développement de l'économie circulaire dans la construction. On est aujourd'hui référent national au sein du comité stratégique de filière industrie pour la construction. Et notre vocation, c'est d'être un do-tank par complémentarité avec les think tanks. Agir concrètement sur le terrain à tous les niveaux pour que demain, si possible, ces questions de l'économie circulaire soient dans les gènes de tout un chacun pour aller plus vite.
On se retrouve dans l'esprit du booster du réemploi. Merci à tous. On lance tout de suite la deuxième partie de cette émission. Il y a débat. Et on vous rappelle que vous pouvez participer, n'hésitez pas à poser les questions que nous relayerons tout à l'heure dans la quatrième partie de cette émission. N'hésitez pas, nos invités vous répondront tout à l'heure dans Open Question. Alors, la question est simple, le réemploi des produits et matériaux est-il un mythe ou une réalité? C'est la question de ce débat aujourd'hui. Pour lancer ce sujet, je me tourne vers Stéphane. Comme toujours dans cette émission, on part sur des bonnes bases, on essaie d'expliciter. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire le lien entre réemploi et économie circulaire?
Oui, avec plaisir. Alors, je vais reprendre une base un petit peu technique qui a été évoquée par Franck à l'instant. Le réemploi, aujourd'hui, a sa place dans le Code de l'environnement, article 541.1-1. Et tel que l'a mentionné tout à l'heure Franck, il s'agit effectivement, on parle de réemploi quand on, pour des matières, substances, produits, on a une utilisation à nouveau conforme à l'usage initial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose qui est codifié, donc installé. Donc aujourd'hui, le législateur a souhaité donner les éléments nécessaires pour que la dynamique soit présente au quotidien. L'économie circulaire, on en a longuement parlé au cours des précédents WIL. On s'est appuyé sur la présentation telle qu'elle est faite aujourd'hui par l'ADEME. 7 piliers. Sur un certain nombre de piliers, on va retrouver de manière transversale la force du réemploi. Alors bien évidemment, sur celui des déchets, et comme l'a à juste titre indiqué Franck, le réemploi n'a pas sa place, parce que quand on fait du réemploi, on n'est pas dans le statut de déchet. Mais dès le départ, alors même qu'on est en train de concevoir son projet construction, de l'éco-conception, c'est à ce moment-là que le réemploi trouve toute sa place. Il doit, pour l'ensemble en fait, des intervenants, être présent dans le cahier des charges au moment même où on imagine son projet. Parce que c'est la meilleure façon d'avoir une approche globale, systémique, et se donner toutes les chances d'avoir un projet qui capitalise sur l'ensemble des possibilités. On a connu récemment, depuis quelques semaines, voire quelques mois, des tensions très fortes sur les matériaux. On comprend bien qu'on a aujourd'hui à portée de main une multitude de matériaux, de produits qui sont à disposition. Donc quand j'entends parler de difficultés, de tensions sur les matériaux, en fait, on ne dévoile qu'une partie du sujet. On parle de matériaux, de produits neufs, alors même qu'il y a à disposition des quantités disponibles pour faire baisser les tensions.
Vous nous dites c'est que le réemploi est intimement lié avec l'approvisionnement durable. On est d'accord ?
Tout à fait. C'est le deuxième, effectivement, niveau sur lequel on peut l'identifier sur les sept piliers de l'économie circulaire, au niveau de l'approvisionnement durable. C'est une ressource qui est en grande quantité disponible. On va l'évoquer tout à l'heure avec nos invités. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui de grande qualité et d'expertise qui sont capables de mettre à disposition les volumes suffisants avec le niveau de qualité requis. Et dans un certain nombre de cas, quand il y a des exigences de certificats ou faire valoir un certain nombre d'arguments sur le terrain assurantiel, ils sont à même de les apporter. Donc en matière d'approvisionnement durable, le réemploi a toute sa place. On peut citer encore un autre pilier, l'allongement de la durée d'usage. Celui-là, il est presque évident. Quand on est dans une logique où on réemploie systématiquement, il m'a semblé entendre parler d'une porte tout à l'heure,
oui,
qui voyage de bâtiment en bâtiment, de pièce en pièce, etc.
Soyons dans le concret, oui, comme ça.
On est dans l'allongement de la durée d'usage.
D'accord.
Et on est clairement dans le cercle vertueux tel qu'il est présenté aujourd'hui sur la circularité des sept piliers, qui est la vision proposée par l'ADEME actuellement.
Et donc recourir au réemploi, ça suppose de la fluidité entre différents acteurs, différents projets.
Alors,
inévitablement.
Tout à fait. Je pense que au centre de la dynamique aujourd'hui, comme sur un certain nombre des sujets qu'on a évoqués précédemment, il y a les personnes, il y a les acteurs, il y a les professionnels. Pour moi, aujourd'hui, le succès du réemploi passe par ce que j'appelle le triangle du réemploi. Trois acteurs qui sont des acteurs majeurs, facteurs clés de succès du développement du réemploi. Les diagnostiqueurs. Il faut avoir aujourd'hui une capacité à faire une cartographie précise de ce qui va être disponible.
Je vois Elisa et Cédric opiner, donc je vais les interviewer juste après.
Oui, et donc les diagnostiqueurs qui font ce travail. Il faut ensuite livrer l'ensemble de ce travail à des acteurs qui vont être capables d'organiser les flux réels. Donc on a des filières de réemploi qui interviennent. Et bien évidemment, il faut en bout de chaîne, mais en matière de réemploi, le bout de chaîne est aussi le début d'une autre chaîne, il faut les entrepreneurs, il faut les artisans qui, un, vont être en mesure de comprendre tout l'intérêt d'utiliser ces matières ou ces produits réemployés, et ensuite, parce qu'ils ont le geste sûr, soit qu'ils l'ont naturellement, soit qu'on les a formés, et c'est le rôle du 3CABTP, que d'accompagner l'ensemble des acteurs sur le savoir et le savoir-faire du réemploi. Et ces acteurs-là, les artisans, sont à même de capitaliser sur tout ce qui est mis à disposition par les filières identifiées par les diagnostiqueurs.
En quelques secondes, je vous voyais réagir, Elisa.
Le réemploi, c'est ce qui est le plus écologique. Dans toutes les... C'est ce qui, effectivement, ne nécessite pas de transformation. Donc, c'est ce qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est la première étape quand on veut avoir des démarches écologiques. Le réemploi, c'est quelque chose qui existe depuis tout temps, en fait. Depuis tout temps, on a réemployé. C'est vrai qu'avec la massification, la globalisation de l'économie mondiale, on a un peu oublié ça. Et les conséquences sont importantes, puisque si je prends en Île-de-France, 70% des déchets sont produits du bâtiment. Donc, c'est bien, on est tous chez soi en train de trier ces bouteilles. Il n'empêche qu'il faut aussi que dans ce domaine-là, on trie. Dans le domaine du bâtiment, effectivement, on diagnostique ce qu'on peut réutiliser et qu'on essaie de réutiliser au maximum. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça commence à se faire. ça commence à se faire et qu'en plus, finalement, ça permet d'avoir accès parfois à des matériaux de meilleure qualité parce qu'ils sont là depuis très longtemps. On a des forêts de chênes qui ont été plantées il y a des siècles. Et c'est vrai que quand on démolit, pouvoir réutiliser ces matériaux-là, c'est quand même essentiel. Donc on a vraiment du matériau. On est en train de s'organiser. Il faut des plateformes, il faut de la logistique. Il faut des entreprises effectivement qui sont formées pour pouvoir réemployer, mais c'est en train de se mettre en place à grande échelle. Et puis c'est très fortement tiré, et c'est ce sur quoi je vais conclure, par les grands marchés, parce qu'aujourd'hui mon association Les Canaux intervient pour les Jeux Olympiques pour que justement cette dimension d'économie circulaire soit vraiment au cœur des constructions des Jeux. Et donc on est en appui sur les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre sur l'intégration de ce domaine-là, et c'est vraiment une exigence. La loi AGEC a aussi rendu des choses obligatoires dans ce domaine-là. Et puis de plus en plus de collectivités, de pouvoirs publics, dans leur marché, veulent être responsables et tirent vers une exigence de plus en plus forte. Donc aujourd'hui, pour remporter les marchés, il faudra faire du réemploi. Et donc, il faut s'organiser pour faire du réemploi.
Autour du fameux triangle évoqué par Stéphane, vous étiez d'accord. Cédric ?
Moi, je propose un autre triangle en miroir du triangle diagnostiqueur, filière de réemploi, artisan au geste sûr, absolument nécessaire. Je propose un triangle qui est la maîtrise d'ouvrage, qui va accepter de prescrire du réemploi, de s'engager justement à battre des tonnes de carbone en mettant en œuvre du réemploi comme une pratique courante. Un maître d'œuvre qui va accepter de justement évaluer, on va lui apporter des propositions de réemploi derrière, il va les évaluer, il va essayer de faire rentrer ça dans son ADN justement pour tirer toute cette filière côté demande. Et bien sûr, il y aura un bureau de contrôle quelque part. Tout ça va fonctionner en bonne harmonie avec l'autre triangle. Donc voilà, un triangle miroir côté demande et je pense que le monde comme ça est à peu près parfait.
Franck, je vous voyais réagir.
Oui, mais moi, en fait, là-dessus, c'est ce qui est évoqué, c'est que il y a les artisans, il y a ces professionnels du bâtiment, donc et il faut arriver à les accompagner pour qu'ils changent leurs pratiques. On évoquait tout à l'heure en amont la nécessité, de passer du temps pour accepter de réemployer. Il y a des process, on le disait tout à l'heure, c'est un projet, donc c'est un quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc il faut être formé sur l'éco-conception, sur la mise en œuvre en anticipant la fin de vie de l'infrastructure pour ensuite favoriser le réemploi. Et donc là, pour le coup, on passe par la case formation, évolution des compétences. Et là, pour le coup, nous avons deux sujets. Le premier, c'est les apprentis, je dirais, qui sont formés aujourd'hui pour le secteur de la construction, qui sont aujourd'hui largement accompagnés et rompus au sujet de l'économie circulaire. Donc on a un exemple en ce moment qui est en train d'être relancé avec Agir et brillamment. Donc Stéphane nous le disait encore la dernière fois. Donc nous avons une équipe d'apprentis et de formateurs en Grand Est qui sont formés aux rudiments de l'économie circulaire et notamment du réemploi pour être des ambassadeurs, des porteurs de cette nouvelle façon de penser les bâtiments auprès des entreprises de la construction.
Je rebondis sur la question de la maîtrise d'ouvrage. Je pense que les trois acteurs dont vous nous parliez tout à l'heure, effectivement, il faut qu'ils s'appuient sur des initiatives qui sont impulsées par les maîtrises d'ouvrage.
Exactement. Aujourd'hui, on le comprend bien, on parle d'ouvrage de construction. Donc à un moment donné, on a besoin d'avoir un acteur qui va porter le projet. Et celui qui porte le projet dans le système actuel qu'on connaît dans notre quotidien, c'est la pierre angulaire de l'ensemble de l'édifice de construction. C'est celui qui va donner le tempo, qui va fixer ses exigences. Et pour pouvoir déployer à sa juste mesure le réemploi, à la hauteur des ambitions qui sont celles de l'urgence environnementale, il va falloir qu'il soit convaincu, premier élément, et ensuite, très souvent, comme c'est le cas de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle se fasse accompagner par un certain nombre de spécialistes, appelons-les filières, métiers. Donc on peut avoir des assistances à maîtrise d'ouvrage économie circulaire, ou quand on souhaite être un petit peu plus pointu, on va descendre sur une assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi, qui est tout à fait possible et qui permet d'être au plus fin, au plus proche des besoins et de dégager l'ensemble des synergies que réclame un projet qui est un projet économie circulaire intégrant un maximum de réemploi.
On devait voir un schéma, non ? Je sais pas, on n'avait pas préparé un petit schéma pour expliquer tout
ça. C'est possible.
C'est possible. Écoutez, en tout cas, ce qui tombe bien, c'est que pour compléter cette vision, on va écouter un premier témoignage d'Hubert Mounier, secrétaire général du bâtiment. Ah non, on me dit que non. Alors, on n'a pas ce témoignage d'Hubert Mounier. Je n'étais pas au courant. On continue, excusez-moi. Retour en studio, on reste en studio sur cette question. Comment vous percevez, Cédric, ce défi organisationnel dans votre activité quotidienne ? Y a-t-il un effort à faire sur les connaissances, notamment ?
Sur les connaissances, bien certainement. Mais je vais remettre en perspective, en fait, les circonstances de la naissance du booster de remplacement. Ça va éclairer un peu le chemin qu'on est tous en train de faire, justement, sur ce sujet-là. Grâce au Grenelle de l'environnement, il faut le détonateur, à peu près, de tout ce sujet-là, en 2009-2010, il y a un diagnostic déchet qui devient aujourd'hui le diagnostic PEMD en 10 ans d'élaboration et d'ajustement. Donc, on va regarder un bâtiment non plus comme un bâtiment simplement à déconstruire et à recycler, comme une source de déchets. On va le regarder comme une source de produits, d'équipements et de matériaux qui sont possiblement réemployés et in fine, bien sûr, de déchets, parce qu'il y a des choses, bien sûr, qu'on devra faire partir dans cette filière-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que côté offre, un certain nombre de maîtrises d'ouvrages qui font des curages, tout le monde, en fait, il y a énormément de gens qui commencent à collecter, trouver, recenser et trouver du matériel viable, du matériel dont le bon sens leur dit qu'il est viable. Mais si on fait passer des techniciens derrière, ils vont pouvoir attester que c'est viable. C'est très important. J'entends bien les deux niveaux. Hein. Et donc, depuis, nous, on remarque en fait que des gens qui se structurent pour offrir du matériel de construction en réemploi, on a recensé plus de 90 plateformes, qu'elles soient digitales, numériques, qu'elles soient physiques, qu'elles s'organisent autour des pouvoirs publics, comme dans certaines régions, qu'elles s'organisent autour des artisans de la construction. Il y a une plateforme d'ailleurs qu'on a découverte il n'y a pas longtemps, assez sympathique, qui c'est toutes les erreurs de commande et fins de chantier, qui sont empilées dans un magnifique entrepôt du côté de Nantes, et ces gens-là ne veulent pas jeter ce matériel-là. Donc à nous de leur trouver une demande. Donc structurellement, il y a vraiment un besoin de maintenant de faire démarrer une demande structurée pour ces 90 plateformes et toutes les start-up qui se sont mises du côté de l'économie circulaire. Et c'est vraiment du booster du réemploi qui est de rééquilibrer le sujet offre-demande sur du matériel viable et dont la destination est la benne, si jamais on ne fait pas quelque chose. Voilà.
Donc parler d'approvisionnement, parler d'expliquer, accompagner sur les questions telles que le stockage, par exemple, aussi.
Alors, le stockage, ça va être un élément essentiel de connexion, en fait, entre l'offre et la demande. Mais déjà, il faut savoir justement apprendre à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir se lancer dans une opération et avec du réemploi comme étant quelque chose de dérisqué, quelque chose qu'ils vont pouvoir pratiquer en opération commune et courante, alors que c'était pas du tout leur ADN jusque-là. Hein, on se servait dans les supermarchés du neuf. Hein.
Et on rebondit, je pense, sur la question aussi des compétences, Franck, c'est ça ?
Oui, des compétences, mais aussi, je pense qu'il y a un élément que vous soulevez qui est extrêmement important, c'est aussi le réemploi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de moins polluant aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a de moins polluant parce qu'on reste sur le territoire. Et donc aujourd'hui, et là je fais le lien avec le développement territorial, le réemploi favorise le transfert de produits, de matériaux en local et favorise aussi l'évolution des compétences pour être plus en phase avec les besoins du territoire. Et donc là, c'est, je dirais que c'est un cercle vertueux sur différents cercles, comme vous évoquiez M. Borrell à l'instant. Donc c'est ce que je voulais souligner.
En termes de compétences, justement, est-ce qu'on a aussi des efforts, des ajustements à faire.
Bien sûr. Alors, il y a. Et en fait, là, ça va dépendre de l'ancienneté du matériau, des matériels qui sont posés. Jusque-là, on a vu, par exemple, dans des grands bureaux parisiens, quand la moquette était plus du goût de son locataire ou parce que le locataire allait changer, on pouvait jeter du matériel qui avait 2 ans d'âge. C'était un scandale intellectuel, mais c'était la nécessité opérationnelle qui faisait ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'on ait un nouveau regard et une connaissance compétences justement pour regarder le matériel en fonction de son âge. Peut-être qu'on va jeter un matériel qui est encore en catalogue, qui est encore aux normes, etc. Donc peut-être qu'un démontage, une palettisation soignée, une conformité visuelle et donc cette traçabilité donc, qui est absolument nécessaire pour le sujet va suffire pour le faire. Et en fait, plus on recule dans le temps, plus en fait certaines caractéristiques qu'on a mappées au sein du booster permettent de faire en sorte de regarder de manière dérisquée le réemploi. Est-ce que le matériel est dissociable ou pas dissociable de l'ouvrage, tout simplement? Est-ce qu'on est sur un matériel qui est industriellement posé, démontable, etc., qui a été fait pour une bonne maintenance? À ce moment-là, le mainteneur, le placer le carré de moquette entre deux étages, pourquoi pas traverser la rue? Voilà, c'est ça le sujet. Et donc, il faut une analyse critique, il faut une bonne connaissance avant d'acheter un gisement, il faut une bonne connaissance du matériel qui est proposé, il faut avoir une critériologie, ça c'est vraiment le paradigme de la maîtrise d'ouvrage.
Oui, voilà. Tout à fait.
Alors, moi, je vous écoute, je vous pose la question, je reviens à la question du début de notre échange. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui, le réemploi, et notamment dans le BTP, où est-ce qu'on en est?
Alors, aujourd'hui, on
constate... Oui, Stéphane, allez-y. Ouais.
Voilà, donc aujourd'hui, on constate un fort engouement là, sur le sujet. Donc on le voit sur le nombre de tables rondes, si je peux dire, qui sont organisées à l'initiative de tout un tas d'acteurs, à l'initiative, et c'est heureux, d'un certain nombre de maîtrises d'ouvrage aussi, qui souhaitent un petit peu en savoir plus, parce qu'il y a des exigences aujourd'hui qui les amènent à se remettre en question, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, et notamment des exigences assez pratico-pratiques qui sont celles d'un certain nombre d'usagers qui, dans différentes situations, donne le tempo pour tout un tas d'acteurs. C'est particulièrement vrai pour la maîtrise d'ouvrage public, et c'est important. Pour autant, il y a encore du chemin à faire. On voit aujourd'hui qu'en matière de réemploi sur les matériaux du second œuvre, on est à 35%, à peu près 35 millions sur 10 millions. Donc le chemin, certes, a déjà été engagé.
3 millions sur 10 millions,
tout à fait. Et on s'était donné un certain nombre d'exigences aussi et d'objectifs. C'était le cas de la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015, qui avait dit, voilà, à l'horizon 2020, il faudrait qu'on ait atteint le chiffre de 70%, encore 70%, en termes de valorisation des déchets de construction. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Donc oui, il y a de l'engouement, oui, il y a une volonté d'y aller, mais oui, le chemin est encore important, l'accélération doit être amplifiée, pour autant qu'elle est déjà démarrée, mais beaucoup d'acteurs sont en marche, beaucoup de volontés sont réunies, on le voit aujourd'hui, et je tiens quand même à souligner qu'un certain nombre d'acteurs ici ont engagé leur volonté, leur enthousiasme, leur expertise depuis déjà un certain temps.
En deux mots, Stéphane, l'offre, elle se structure aujourd'hui sur différentes filières, l'offre de réemploi.
Oui.
Avant de passer la parole à Elisa.
Alors, en deux mots, de manière très synthétique, aujourd'hui, on va avoir des filières industrielles, on va avoir des filières de l'économie sociale et solidaire, alors souvent organisées sous forme associative, mais ce sont des acteurs extrêmement importants parce que des acteurs de terrain à proximité des différents points d'intérêt, si je puis dire, et en totale connexion avec les réalités. Donc ça, c'est vraiment déterminant. Et puis, ça a plus ou moins été esquissé tout à l'heure quand on a évoqué les considérations dites logistiques de ce type de sujet. Il y a tout un tas de marketplaces qui existent aujourd'hui, certaines qui sont depuis un certain nombre d'années installées et qui ont donc une notoriété suffisante pour que les regards se tournent vers elles et après les regards, les flux de matériaux que l'on peut réemployer.
Elisa Yavchitz, parmi ces éléments, parmi ces filières, qu'est-ce qui aujourd'hui fonctionne? Qu'est-ce qui est effectivement réemployé? Je vous voyais nuancer.
Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité parce qu'il y a de plus en plus effectivement de de maîtrise d'ouvrage qui le demandent, donc les entreprises doivent y aller. Nous, par exemple, on a la Maison des Canaux qui est notre... ce sont nos bureaux, qui est un pavillon historique de... un pavillon qui date de 1892 et qui a été rénové 100% en économie circulaire, c'est-à-dire que l'ensemble des matériaux, et ça fait 1000 mètres carrés, ont été issus du réemploi et de l'aménagement, du réemploi et du recyclage, avec vraiment énormément de solutions. On parlait des portes. Alors, par exemple, sur le chantier, les barrières de chantier sont faites avec les portes de cave qui n'étaient plus... qu'il y avait une centaine d'années, on ne pouvait plus vraiment les utiliser comme portes, mais qui peuvent être des barrières de chantier autour du bâtiment et qui sont en bois et c'est plutôt joli, qui coûtent beaucoup moins cher que d'aller chercher des portes ailleurs. Plus globalement, les pierres, par exemple, qui sont issues de la démolition de certains murs, puisqu'on fait des espaces aujourd'hui plus grands, sont utilisées comme structure pour la terrasse. Les poutres métalliques de structure, donc on est vraiment sur de la structure, sont issues d'un chantier de démolition de Bondy. Et avec tout un travail, effectivement, avec le bureau technique, aujourd'hui, toute la structure est issue de poutres de réemploi. C'est aussi le béton qu'on peut utiliser. On a énormément de béton et aujourd'hui, cette filière est en avenir sur du réemploi parce qu'elle est peu utilisée. Mais là, on voit qu'il est réutilisé en dalles et poncé. Il fait des dalles de quasi-marbre. C'est très beau. Et surtout, ce qui est très intéressant dans cette maison, c'est que justement, tout est très beau. C'est un niveau... De construction et de rénovation de très haute qualité. C'est aussi aménagé avec du mobilier qui est issu de matériaux de réemploi. Et du coup, ça fait prendre conscience finalement que c'est possible, on peut vivre dans un monde comme ça et on peut faire de très belles réalisations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de délégations qui viennent nous voir, d'entreprises, de collectivités, même de délégations internationales pour voir, puisque ça a eu le prix de la meilleure innovation en France sur ce sujet-là. Et on espère bien que la deuxième phase de travaux l'aura aussi. Et donc, pour montrer que c'est possible finalement. Mais ça demande de l'agilité. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être... On n'est pas dans des processus où on reproduit systématiquement. Ça demande de la matière grise, ça demande de la réflexion.
Notamment,
souvent.
Vous avez fait appel à d'autres filières pour les cloisons.
Par exemple, les cloisons sont faites avec... il y a des solutions matériaux plastiques maintenant avec SAS Minimum et d'autres entreprises en France qui récupèrent les bouteilles de plastique et qui en font des cloisons de plastique. L'isolation est faite aussi à partir de tissus issus d'Emmaüs qui est réinventé en textile intérieur pour faire de l'isolation de très belle qualité avec vraiment un design graphique et des designers qui sont derrière. Donc oui, on voit que dans toutes les filières, aujourd'hui vraiment dans toutes les filières, on peut mettre du réemploi. Mais voilà, il faut qu'on s'organise et qu'on soit tous autour de la table. Et la dernière chose, c'est que c'est extrêmement valorisant pour les équipes. Et que généralement, les équipes qui travaillent sur des projets comme ça sont heureux de le faire, c'est-à-dire sont heureux d'inventer des choses nouvelles finalement contribuent...
Qui ont du sens.
Qui ont du sens, voilà, et qui ont un enjeu pour l'environnement, qui a un enjeu pour la planète. De plus en plus de personnes sont conscientes, dans les métiers du bâtiment notamment. Et donc ça, c'est aussi... Au début, ça peut paraître compliqué pour les équipes, et in fine, c'est vraiment très très gratifiant.
On va rebondir sur ce que vous disiez, vous donniez plusieurs exemples. Est-ce que demain, on peut espérer justement recycler d'autres matériaux? Qu'est-ce qu'on peut... réemployer.
Réemployer.
Qu'est-ce qu'on pourrait réemployer demain qu'on ne réemploie pas déjà aujourd'hui?
Actuellement, sur le réemploi, nous, on est sur 13 cahiers des charges qui fonctionnent communément, de manière courante, dans tous les chantiers du booster. Le booster, enfin, les maîtres d'ouvrage viennent en mettant 5 projets par an dans lesquels ils vont faire le pari du réemploi. Actuellement, il y a 13 flux qu'on a complètement équipés en cahier des charges. Quand il y a un cahier des charges, ça veut dire qu'il y a une filière qui s'est produite au service derrière. Il s'agit vraiment de déboucler l'appel d'offres avec de la réalisation. Et donc, 13 flux qui sont vraiment le second œuvre architecturale. On est en train de partir vers les lots techniques. De s'occuper, nos équipementiers nationaux sont en train de faire des offres pour pouvoir certifier du matériel réemployé, chez les grands équipementiers électriques, qui sont les champions, nos champions à nous, et on part vers des éléments un peu plus complexes. Quand on va partir, en fait, Sur le clos couvert, on va être sur des choses beaucoup plus complexes, à qualifier, beaucoup plus difficiles, mais sur lesquelles il y a déjà quelques réalisations. Alors, peut-être pas en réemploi pur, mais en upcycling. Hein. C'est l'opération Gessina, par exemple, live sur les Champs-Élysées, dans
upcycling,
lequel...
Upcycling, vous pouvez comment expliquer
upcycling, c'est le réemploi à une destination qui n'est pas la même que... Voilà, on l'utilise pour faire autre chose.
En français.
C'était la réutilisation dont vous parliez tout à l'heure, réemploi-réutilisation. Donc, ils ont réutilisé en dégrafant l'ensemble un certain nombre de plaques en éléments de façade. Sont maintenant dans le parking de chez Gessina, avenue de la Grande Armée, et il s'agit quand même de 300 tonnes de matériel qui a été sauvé pour ça. Voilà, donc des réalisations, on en a plein en termes de... Donc, dans mythéralité, moi je préfère dire que c'est une réalité. Et en fait, à cause en fait de cet engouement, hein, de cet engouement de la maîtrise d'ouvrage, d'avoir trouvé du matériel, hein, le travail d'une maîtrise d'ouvrage, c'est de retravailler ses actifs, de les repositionner et de vraiment faire ces actions qui ont sens. Et le fait de tous les jours tomber sur du matériel viable... Oui. Leur donne vraiment envie de réussir à boucler la boucle.
Elisa ?
Alors, le réemploi, ça peut être les lavabos, ça peut être la robinetterie, ça peut être les poignées de porte, ça peut être les portes, ça peut être... effectivement, aujourd'hui, on arrive à même déceler des plaques de béton pour les réutiliser. C'est vraiment, on le disait, c'est toutes les structures métalliques. Donc, on a des gammes très très larges en réalité, on est presque sur tous les métiers.
C'est donc facile ? Vous m'expliquez que c'est facile de faire du réemploi ?
C'est pas facile, on l'a dit, il faut des compétences de diagnostic, il faut des compétences de logistique, parce que souvent on ne peut pas réemployer tout de suite, il va falloir stocker d'abord, trouver un lieu de stockage, donc il y a quand même des compétences de logistique. Ensuite il y a aussi tout un travail assurantiel, avec les bureaux techniques, donc il faut être capable aussi d'aller échanger, discuter avec les bureaux techniques pour effectivement avoir les autorisations. Donc on ne va pas dire que c'est facile, mais c'est, en tout cas aujourd'hui ça existe. Vous demandiez la question, est-ce que c'est une réalité ou pas? Oui, c'est une réalité, et effectivement c'est une réalité en construction, parce qu'on a un grand chemin devant nous pour que ça soit à la hauteur des enjeux nécessaires.
Et ça veut dire qu'il faut développer une certaine sensibilité, peut-être aussi former les futurs...
Et justement, ça peut devenir encore plus facile. On est sur un process, donc on est sur une industrialisation, et pour que ce soit encore plus facile, il faut bien penser le projet dès la conception, donc dès l'éco-conception, et justement c'est ce que l'on voit aujourd'hui, il y a nécessité d'accompagner ces professionnels du bâtiment sur la phase de construction, donc sur les canaux d'approvisionnement, donc sur la pose également, donc sur la pose et les matériaux employés, de façon à ce que ce soit posable dans les meilleures conditions après. Donc que l'on envisage, on va dire, un accompagnement, une évolution des compétences, une évolution des sensibilités de la construction jusqu'à la déconstruction. Et on parle bien de déconstruction et plus de démolition. Et je pense que tous ces mots, c'est une évolution des mentalités, une évolution des cultures. J'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que la culture est extrêmement importante. Et donc il est important aujourd'hui de les accompagner, d'accompagner ces professionnels tout au long de la vie, donc dans l'évolution de leurs compétences, de l'appréhension d'un chantier. Et donc les constructeurs d'aujourd'hui doivent devenir les déconstructeurs de demain, ou les reconstructeurs des constructeurs de demain.
De la formation initiale à la formation continue, on a compris, le réemploi c'est passionnant, on est très en retard, alors on va passer aux questions qui fâchent, notre troisième point, et ça commence tout de suite, jingle. Allez, première question qui fâche. Donner ou revendre des produits ou matériaux issus du réemploi, n'est-ce pas un piège pour les maîtrises d'ouvrage ?
Un piège ? Pour quelle raison ? J'arrive pas à faire la connexion.
Je sais pas, je joue.
Alors, la maîtrise d'ouvrage...
Vous savez, on aborde le thème différent, un petit peu poil à gratter.
Voilà. Et donc, moi, je suis une maîtrise d'ouvrage. Je vois arriver un matériel, bien sûr, viable, etc., qui me peut être réemployé. Je suis très heureux. Je vais l'abattre dans mon bilan carbone. Alors, un bonus extraordinaire. Dans la future RE 2020, le réemploi, le matériau réemployé va être compté à zéro. On ne peut pas faire moins que zéro, enfin, en termes de poids carbone. Donc ça, c'est déjà fantastique pour la maîtrise d'ouvrage qui fait du neuf. Nous, dans le booster, on a 10 promoteurs qui sont quand même sur des volumes livrés neufs tout à fait conséquents.
Mais je reprends les propos tout à l'heure d'Elisa. Sur l'aspect assurantiel, sur l'aspect de la conformité, est-ce que, effectivement...
En fait, maintenant, tout ça, pour tous les flux qui sont maintenant devenus habituels, il n'y a plus de problème. Enfin, il faut vraiment se dire qu'il n'y a plus de problème. Les gens savent faire. À partir du moment où on a un bon cahier des charges qui permet de faire le filtre entre le très vieux, on va dire, moins viable et le viable. La charge de la preuve reste aux offreurs, comme d'habitude, depuis toujours, depuis que construction existe, c'est ça. Et donc, il n'y a plus de problème.
Il n'y a plus de piège.
Et si vous appelez votre assureur, si tant est que vous avez un assureur moderne, il vous assurera toute l'opération sans aucun problème.
Stéphane ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être accompagné par des personnes qui maîtrisent le sujet dans son ensemble. Le sujet logistique, on l'a vu, le sujet technique également, en lien avec la question assurantielle, restons un peu dans le domaine des portes, on peut tout à fait, dans certains cas, pour les portes, procéder à ce qu'on appelle un déclassement d'usage. Je prends l'exemple d'une porte dans un ERP, établissement recevant du public, qui aurait été classée résistance 1 heure. On peut tout à fait prendre la voie du déclassement et puis aller la faire éventuellement reclasser 1/2 heure, voire non résistante, puisqu'on l'utilise dans un autre usage. Donc ce sont des options techniques tout à fait faisables. Encore faut-il avoir l'accompagnement de l'expert qui est capable de proposer ce chemin qui n'est pas semé d'embûches, mais qui nécessite un minimum d'expertise et de connaissances du métier.
Et deuxième question.
Et d'anticipation.
Et d'anticipation.
Et nous, on a vu du coupe-feu une heure devenir du coupe-feu une heure. Là, on commence à en voir.
Possible aussi.
C'est le cas au Cano.
Oui, voilà.
Sur un ERP.
Chez vous, c'est le cas.
Deuxième question. Vas-y.
Ah, pardon. Donc, deuxième question qui est tombée, c'est que dit-on à un usager qui s'indigne de ne pas avoir un matériau neuf et plutôt un matériau usagé?
Mais là aussi, c'est une question d'anticipation et d'information. C'est-à-dire que si on a prévenu avant, organisé, expliqué dans quel cadre et dans quel contexte et pour quels effets, ça rend les gens très heureux. Si on arrive au dernier moment sans avoir prévenu, en disant finalement la porte, ça sera une porte remplacée, là, on a l'impression d'un service dégradé, ce qui n'est pas le cas. Et donc, du coup, ça peut être très mal perçu.
Donc, il faut faire œuvre de pédagogie.
De pédagogie et d'anticipation, exactement.
Expliquer la logique à tout ça, hein, Franck. Troisième question qui fâche, est-ce que le réemploi peut garantir un approvisionnement homogène ? Par exemple, si je dois acheter 400 mètres carrés de revêtement de sol, et qu'il n'y en a que 200 mètres carrés disponibles, comment
fait, nous, par exemple, on a accompagné le Crous de Paris dans l'installation de toute une cité étudiante, qui est entièrement meublé en réemploi, c'est-à-dire avec des... Alors là, on est dans du réemploi, mais dans un autre usage, c'est-à-dire que les portes deviennent des lits ou deviennent des tables. Et toutes les chambres sont identiques, il y a des dizaines de chambres. Et les étudiants, ne se rendent même pas compte, ils sont très heureux, ils trouvent ça très joli. Et ils ne savent même pas que c'est du réemploi.
Mais il n'y a pas de problème d'approvisionnement ? Est-ce que ça nécessite, par exemple, de booster ?
Vu la déconstruction aujourd'hui en France et la démolition, il n'y a pas de problème de réemploi. La question, c'est plutôt le problème de l'enfouissement de trop de matériaux et qu'on n'aura plus la place de ne pas utiliser de réemploi.
Stéphane ?
Alors, sur la question précise là, qui est sur... un produit particulier dont on souhaite un certain volume, il y a également des réponses adaptées. Ça rejoint le propos que je tenais il y a quelques minutes sur l'expertise d'un certain nombre d'acteurs. On en a autour de la table en la personne du booster. Très clairement, le travail sur ce sujet des acteurs spécialisés s'appelle la consolidation de la ressource. Donc on fait un sourcing. Donc on va regarder un petit peu ce qu'offre le marché pour le produit concerné, on consolide l'information et on a le volume suffisant.
Oui, je pense que c'est ça. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on voit au vu de la fenêtre du booster, c'est ça. Il y a des flux sur lesquels il y a abondance, hein, avec le passage, par exemple, des bureaux cloisonnés au flex-office. Des cloisons, vous pouvez avoir des lots complets et vous pouvez réinstaller vos mètres carrés avec un lot homogène. Il y a des flux qui sont un peu plus tendus, dans lesquels il va se passer ce que Stéphane a développé, c'est-à-dire, je vous fais un complément à neuf d'une offre de réemploi existante, et puis l'ensemble va se marier. Et on va même trouver des choses, d'ailleurs, les gens sont... Je reviens sur le bonheur, vous parliez du bonheur des équipes à composer avec les sujets de réemploi. On était au MIPIM pour un certain nombre de témoignages et de retours, parce qu'on a fêté les 1 an du booster. Et ce qui m'a marqué, c'était la joie des équipes d'avoir réussi le coup de réemploi. J'ai fait 4 flux, mais demain, j'en fais 40 parce que franchement, et j'ai adoré ça. Et on pense que là, il y a, enfin, quand vous avez une équipe projet qui fonctionne avec ce moteur-là, avec cette envie-là, c'est même tout votre projet immobilier qui se passe mieux, en fait. Voilà.
Donc, on revient à ce qu'on disait en tout début d'émission. Si jamais on s'inscrit dans un projet, il n'y a pas de problème d'approvisionnement parce qu'on a réfléchi le projet depuis le début, finalement.
Alors, il y a, en fait, jusque-là, on n'avait pas. Il y a quelque chose qui structure. On a parlé beaucoup de logistique. Quelque chose qui structure l'offre et la demande, c'était de dire, moi, d'avoir de manière visible, en septembre 2023, je vais avoir besoin de 10 000 m² de telle matière. Cette structure, cette annonce-là n'existait pas. Et donc, vous arrivez, vous êtes au moment du curage de votre opération. Et si vous n'avez pas la visibilité d'une demande future, que vous pouvez combler par un trou de logistique, sur lequel vous pouvez vous organiser, vous n'allez pas faire la dépose soignée du matériel. La dépose soignée, ça coûte plus cher. Donc, économiquement, vous n'êtes pas viable. Et jusque-là, dans le sujet offre-demande, on n'avait pas de demande placée dans le temps avec un échéancier. Donc c'était l'intention du booster via la plateforme looping.imo, qui a été offerte par Groupama Immobilier à la profession, à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, de créer une visibilité de la demande, une prévisibilité de la demande qui permet d'organiser toute cette chaîne. Le fameux complément à neuf du matériel, la qualification des matériels, et le pontage logistique entre deux opérations qui ne seront jamais séparées de 2 ans, mais qui, on voit des durées qui commencent à s'allonger. 6 mois semble être déjà un horizon qui va commencer à faire monter les volumes.
On ne va pas frustrer ceux qui nous regardent, on va enchaîner, passer des questions qui fâchent aux open questions, c'est-à-dire la partie 4 de cette émission. On va vous poser les questions de ceux qui nous suivent. On commence par la première question, Franck.
Oui, donc alors vous parliez tout à l'heure de gains sociétaux, de gains environnementaux liés au réemploi, mais comment cela s'illustre-t-il ? Elisa, Cédric ?
Vous voulez dire au niveau, quels sont les...
Concrètement, pour aller plus loin que ce que l'on a évoqué à l'instant, comment s'illustrent ces gains sociétaux et environnementaux ?
Ah ben on l'a un peu évoqué tout le fil de l'émission, mais effectivement déjà de transport, parce qu'on est sur des logiques qui sont très territoriales, qui ne nécessitent pas d'aller chercher des matériaux en Chine ou en Inde. Donc il y a le transport, il y a tout simplement aussi les matières, l'extraction des matières dans le monde, que ce soit du bois, que ce soit du sable. On voit qu'on rentre dans des questions de pénurie de sable avec une érosion, et on le voit, je veux dire, sur nos plages, on le voit dans le monde entier, mais y compris en France, sur nos plages. Voilà, c'est à peu près les deux grands axes principaux, émissions et raréfication des ressources.
On a une question de Olivier qui dit: qui pourrait être tiers de confiance selon vous, et on en est où à ce sujet aujourd'hui dans le domaine du réemploi?
On passe du tiers de confiance parce que moi je veux bien répondre.
Ah oui,
je veux bien répondre parce que franchement,
très très vite. Alors,
un emploi dans l'économie linéaire vers l'enfouissement, c'est plus de 600 emplois en économie de réemploi. Voilà, c'est du rapport 1 pour 600 entre l'enfouissement direct, bon, je prends une caricature bien sûr, vers un circuit qui va justement irriguer un travail noble d'installation, de désinstallation et de réinstallation.
Et en comparaison, donc 10 tonnes d'enfouissement génèrent un équivalent temps plein, uniquement.
Bon, voilà. La messe est dite.
Il n'y a pas de débat. Ce tiers de confiance selon vous, et où en est-on à ce sujet aujourd'hui, Stéphane, peut-être ?
Alors, sur les tiers de confiance, moi, j'ai une position assez ouverte. Je crois aujourd'hui que, quelque part, tout est contenu dans le terme confiance. Donc, la confiance va venir d'un niveau d'expertise reconnu, c'est-à-dire de place, d'un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, prennent la parole comme étant des sachants sur le sujet. Dans d'autres domaines, la confiance va venir d'une habilitation. Prends l'exemple là, des diagnostiqueurs pour faire des diagnostics PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, nouvelle obligation. Donc, comme assez souvent en France, en fait, il y a des obligations, on n'a pas pensé à former les gens, donc c'est en cours. Agir a mis en place un certain nombre de modules pour former les prochains diagnostiqueurs, dès lors que l'obligation va arriver dans quelques mois. Bon, quand on a des diagnostiqueurs formés, je pense que ça peut tout à fait être un tiers de confiance sur un sujet de réemploi de son domaine. On peut le faire intervenir comme tiers de confiance. Donc, où en est-on sur le sujet ? On en est, je pense, pas assez loin. De mon point de vue, La question est très intéressante parce que le tiers de confiance, aujourd'hui, si un maximum d'acteurs qui souhaitent aller dans le réemploi, dans l'économie circulaire, souhaitent aller plus vite, très bien, qu'elles choisissent un tiers de confiance pour venir les épauler sur des projets où ils souhaitent mettre du réemploi, ils sont les bienvenus. Et on les trouvera, les tiers de confiance.
Ouais, ça rejoint une troisième question, et si vous y répondez, c'est 20 secondes, pas plus. Je suis chef d'entreprise, comment me former au réemploi ?
Au réemploi dans le bâtiment ?
Oui.
Il commence à y avoir des formations un peu partout.
Il y a des MOOC. Il y a le MOOC des canaux sur la construction, le design et le mobilier. Secteur de l'économie circulaire, il y a beaucoup de conférences en ligne aussi, et puis il y a des formations maintenant. Nous, on est en train de lancer une formation pour les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre et les ouvriers sur l'utilisation de l'économie circulaire dans leur métier. Ça s'appelle les chemins du bâtiment. Ça se fait avec l'ADEME, avec les collectivités franciliennes, qui ont aussi un intérêt à former leurs propres agents, ouvriers et leurs propres, et puis aussi des entreprises qui rejoignent, parce que finalement c'est aussi la pratique. Donc on va utiliser les chantiers franciliens pour pouvoir tester sur la pratique.
Très bien. Stéphane, en
10 secondes. Agir a aussi une offre, effectivement, pour accompagner en termes de formation.
Et puis, il faut se former auprès...
Oui, auprès du 3CABTP, des organismes de formation. Et je dirais que, comme on peut le voir, il y a différentes expérimentations qui se mettent en place, qui vont se mettre en place pour enchaîner sur le réemploi.
La boucle est bouclée. Et pour vraiment boucler la boucle, on passe au temps de la conclusion, la cinquième partie de cette émission très dense, le Money Time WinLab. C'est tout de suite. Et oui, on aurait pu faire 2 heures, mais on ne va faire qu'une heure sur ce thème très riche. Avant de laisser la parole à Franck Lenuelec, conclure pour 3CABTP et l'incubateur WinLab, en 2 mots, 1 minute chacun, est-ce que vous pouvez dresser un petit bilan rapide comme ça sur la thématique du jour, nous dire si le réemploi des produits et matériaux est un mythe ou une réalité, honneur? Ah, Elisa, il y a shit.
Alors, je souhaite que ce soit une réalité, ça l'est déjà, mais c'est une réalité quand même en devenir et on a un chemin tous ensemble à parcourir pour que ce soit une majorité. Donc ça existe, mais c'est encore quand même à une petite échelle et il faut vraiment, et c'est indispensable pour le monde que l'on construit, pour nos enfants, que ça prenne une plus grande part dans les chantiers.
Diffuser avec les MOOC, les initiatives locales que vous
La décidiez. Formation.
La formation. Cédric Borel.
Nous, on souhaite, c'est une réalité, ce sera un scale-up d'ici 2025, on en est convaincu, la tendance de fond est énorme, le désir de la maîtrise d'ouvrage, pour lequel je témoigne aujourd'hui, de valoriser leur produit de curage est gigantesque, et tout ça, c'est un pilier fondamental qui va faire marcher, on en est sûr. Et c'est pour ça que l'équilibre offre-demande tel qu'on le voit se développer, les tonnages qui montent, les chantiers qui demandent du réemploi qui s'accélèrent, on est sur une vraie lame de fond, je pense.
Stéphane Leguiriec.
C'est une réalité, on l'a illustré pendant presque une heure maintenant. Si c'était un mythe, moi j'aimerais que ce soit celui du Sisyphe heureux, tel qu'il est présenté par le philosophe Kukishuzo, philosophe japonais, le mythe de Sisyphe, je pense que tout le monde connaît cette pierre qui est roulée perpétuellement. Belle image pour le réemploi.
Franck, sur le plan de la formation.
Je n'ai pas de citation qui peuvent égaler celle de Stéphane.
Non, mais pour réalité, le réemploi,
c'est une réalité, c'est un enjeu extrêmement important pour relocaliser la consommation, donc éviter justement de s'inscrire dans une économie de la construction trop carbonée, rappelons-le, un objectif de décarbonation à horizon 2030 et à horizon 2050, donc ça c'est un enjeu majeur, et puis bien évidemment de faire évoluer les compétences, de faire évoluer les comportements, et j'aime beaucoup ce que disait Elisa tout à l'heure, c'est pour moi j'associe ça à la créativité. Du réemploi, c'est réveiller la créativité en chacun de nous pour réutiliser et réemployer les différents produits.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Antoine Boudon d'Agir pour son aide précieuse encore et toujours dans cette série de Will. On se retrouve en novembre pour une émission un petit peu particulière, la dernière de la série de ces Will, WinLab Innovation Live. Ça sera du concret, on matérialisera un petit peu tout ce que l'on a abordé dans ce cycle sur l'économie circulaire. Merci Franck, merci Stéphane, merci Elisa Yavchitz, merci Cédric.
Merci à vous. Bourrel. Merci.
Bonne journée à tous. À bientôt.
WinLab, Innovation Live, épisode 5. Le réemploi mode d'emploi, une émission à retrouver sur www.winlab-cccabtp.com, Radio Imo et Bâti Radio.